Bienvenue ce matin à tous et à chacune à la CCM de Cap-de-la-Madeleine. Sûrement que vous avez constaté, comme moi, les actualités cette semaine. Non, vous étiez là, vous étiez branché, pas branché, oui. Vous savez, de nos jours, on entend souvent parler de guerre, de bruit de guerre, de terrorisme. Ça va mal dans le monde. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un refrain quotidien qu'on entend tout le temps, hein? Est-ce que ça va bien dans le monde? Ça va mal dans le monde? Est-ce que ça va s'arranger? Tout le monde sait que ça va mal dans le monde. C'est pourquoi on cherche à connaître l'avenir. Parce qu'on a peur de ce qui s'en vient. On voudrait fuir. Les gens sont inquiets, anxieux. Il y en a même qui font de l'angoisse. Il y en a qui vont vers les cartomanciennes, il y en a d'autres qui vont vers les diseuses de Bonaventure, on cherche à savoir l'avenir. Même parmi les chrétiens, on cherche à savoir l'avenir. Comme chrétien, on peut connaître aussi l'avenir. Ce n'est pas pour rien qu'on a plus de 40 personnes qui sont inscrites dans l'Apocalypse, dans le cours d'Apocalypse, parce qu'on veut connaître l'avenir. Moi, lorsque j'enseigne la leçon 3 du cours EBE sur les dispensations et retour de Jésus-Christ, j'ai déjà passé des journées complètes à enseigner là-dessus, parce qu'on veut connaître l'avenir. C'est facile de vérifier le passé, mais en ce qui concerne l'avenir, on veut connaître ce qui s'en vient, ce qui va arriver, et quand ça va arriver. Évidemment, Dieu va intervenir auprès de sa créature. Dieu va intervenir auprès de sa créature comme il est intervenu au temps de Noé. Il est intervenu au temps de Noé, il va intervenir aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans le futur. Mais personne ne le sait. Et ce matin, je vous propose d'analyser quelques signes évidents que nous vivons au quotidien. Le thème de ce message, c'est le retour de Jésus-Christ. Est-ce pour bientôt? J'écoutais cette semaine quelqu'un qui dit, ça c'est déjà venu. Parce que les apôtres, il avait dit aux apôtres qu'ils étaient pour revenir dans leur génération. Alors, il est déjà venu. Paul a écrit 2 Thessaloniciens à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est pour bientôt que le Seigneur va revenir? En général, quand ça va mal dans notre vie, là, on dit, Seigneur, ça fait le bon temps que tu viennes là. Mais c'est toujours le bon temps. N'importe quand, on est toujours prêt. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu 24. Ma première question, c'est, est-ce que vous attendez le Seigneur? OK, il y en a 4 qui attendent le Seigneur. Il y en a qui l'attendent aujourd'hui, il y en a d'autres qui disent, « Ah, oh, ça fait bien longtemps qu'il en parle, puis ça ne revient jamais, on ne sait pas. » On va regarder ce matin 5 signes évidents que le retour du Seigneur est proche. Moi, je ne suis pas le gars qui fixe des dates. Je ramasse tout ça d'affaires, là. J'ai des dépliants ici, là, si proche d'une troisième guerre mondiale. Ah, il y a toutes sortes de sujets. Une bibliothèque de la fin du monde en cas d'apocalypse. Toutes sortes de sujets comme ça que je ramasse. Moi, ça m'intéresse, ces choses-là. Mais en général, on a 3 types de personnes, 3 positions différentes face au retour du Seigneur. Ceux et celles qui attendent le Seigneur sans fixer de date, ceux et celles qui fixent une date, et ceux et celles qui sont indifférents. Pourtant, le retour du Seigneur est imminent. Lorsqu'on regarde à Matthieu 24, le verset 44, il dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, j'ai souligné, tenez-vous prêts. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » J'aimerais ça, vous retenez juste ça. Tenez-vous prêt. Êtes-vous prêt? Quand le grand déménageur va arriver là, pour nous ramasser, là, allez-vous être prêt? Évidemment, il y aura toujours des moqueurs qui disent où est la promesse de son avènement, car tout demeure dès le début de la création. Pourtant, le retour du Seigneur est imminent, les catastrophes sont aussi imminentes. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Il dit que ses paroles ne passeront point. Avant de poursuivre, j'aimerais préciser que les réponses de Jésus suite aux questions posées dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, on trouve trois questions, mais il y en a une autre ailleurs. En réalité, il y a quatre questions pour deux sujets différents. Mais ce matin, on parle du retour du Seigneur, puis je ne voudrais pas... La question qu'ils ont posée au Seigneur, c'est « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ici, je voudrais faire la différence entre... pour ceux qui sont familiers avec cette carte-là, on enseigne ça, nous autres. Vous savez, en général, les commentateurs les plus sérieux s'accordent pour dire que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu avant la tribulation et après ça, le Seigneur va revenir dans sa gloire. Et quand on regarde cette carte-là, on voit la croix du Seigneur au début, là où il a payé la dette de nos péchés. On vit sur la terre, on est à la fin de la période de l'Église, on ne sait pas c'est quand, mais on croit que le Seigneur va venir nous chercher pour nous amener au ciel. Et le Seigneur va revenir. Mais il faut faire la différence entre ici, c'est l'enlèvement de l'Église, ici, c'est le retour en gloire. Mais ce matin, je ne veux pas faire la différence entre les deux. Ce n'est pas le sujet ce matin. Un ou l'autre, là, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? On va regarder quelques signes. Matthieu 24 et le verset 36. De toute façon, ça apparaît toujours à l'écran. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Regardez bien celle-là. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à du Fils de l'homme. En étudiant la vie de Noé, on peut facilement retrouver cinq points caractéristiques, cinq traits caractéristiques dominants du temps de Noé au temps d'aujourd'hui. L'accroissement de la population, l'accumulation de la connaissance, l'augmentation de la violence, vivre pour manger et boire et moquerie de la vérité. On va regarder ces cinq points-là ce matin parce qu'on en regarde 10, on va passer l'après-midi ici. Mais avec 5, on devrait être bon pour 25 minutes. Regardons le premier, l'accroissement de la population. Dans Genèse 6, c'est marqué « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre. » Combien y avait-il de monde au temps du Seigneur Jésus? 1 million. Non. Pas ça. Selon les statistiques, il y avait 250 millions de personnes sur Terre au temps du Seigneur. Mais je vais vous amener, on ne les lira pas toutes, là. Mais regardez, 1973, vous étiez là? OK? Il y avait environ 3 milliards. De 73 à 2011, on a plus que doublé. Doublé en 38 ans. On a plus que doublé. On a une certaine similarité ici entre le temps de Noé et le temps d'aujourd'hui, c'est l'accroissement de la population. Regardez la courbe. On part du temps de Jésus et vous voyez, à partir de 1960-70, là, on monte en flèche. En 1973, on avait 3 milliards. On est rendu à 7 milliards ici, mais là, on est dépassé. On a plus que doublé en 38 ans l'accroissement de la population. C'est un des signes qui nous démontre, comme dans le temps de Noé. Et selon les statistiques, nous avons atteint 7 milliards de d'êtres humains sur la Terre le lundi 24 octobre 2011. Mais en date d'aujourd'hui, 22 octobre 2017, on est 7,507,274,821 personnes. Mais là, c'est difficile de calculer parce que ça augmente de 227 000 par jour. Alors là, il s'en est rajouté quelques-uns depuis que j'ai pris ça. Là. En 2050, on va être 9 milliards. En tout cas, nous autres, on ne sera pas là en 2050, mais ceux qui vont être là, s'ils sont encore là. La population de la Terre s'accroît d'environ 227 000 personnes par jour. Environ 9 000 à l'heure. L'accumulation de la connaissance. Alors, on peut conclure avec le premier point, c'est que l'accroissement de la population comme dans le temps de Noé. C'est un des signes, ça ne nous dit pas quand ça. Ça fait juste nous démontrer qu'actuellement, l'accroissement de la population est arrivé à la même chose dans le temps de Noé, puis quand Noé est arrivé, bien, il y a eu un jugement à la fin, ce qui nous démontre qu'il y a un jugement qui s'en vient. L'accumulation de la connaissance, on va tourner dans c'est Genèse 4, verset 20. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et auprès des troupeaux. C'est le premier à construire des tentes assez grandes pour abriter des troupeaux et en faire le commerce. Et son frère Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. C'est lui qui a inventé, qui est l'inventeur des instruments à cordes et des instruments à vin. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Alors, on pourrait dire que c'est l'inventeur de l'industrie métallurgique, la révolution industrielle de le monde de ce temps-là. La fonderie était déjà existante. On avait des fonderies à l'époque. Alors, ces trois frères ont été révolutionnaires dans leur temps. Ils ont été prospères dans le plaisir et la puissance. Un monde qui voulait se distraire pour oublier Dieu, trop occupé pour le présent, pour s'occuper de l'avenir. Aujourd'hui, on a du monde, en général, qui sont trop occupés du présent pour se préoccuper de l'avenir. Alors, commerce, argent, musique, loisirs, accroissement de la complaisance, accroissement de la connaissance. Vous savez que de nos jours, la connaissance double tous les deux mois. J'ai fait réparer mon étui et mon cellulaire, puis j'ai dit à la fille, vous n'en vendez pas. Elle a dit non, elle dit les cellulaires, ils augmentent toutes les semaines. Ils grossissent toutes les semaines, on n'a jamais la bonne forme. OK. Mais la connaissance, c'est la même chose. La connaissance augmente tous les deux mois. Les festivités, on en invente chaque année. Tout est axé vers le plaisir, le sport, le théâtre, la musique, la danse. Aujourd'hui, on a toutes sortes de fêtes, on en invente à chaque année, y compris même une fête diabolique telle que l'Halloween, puis que personne ne s'interroge à se poser la question d'où ça vient, est-ce qu'on fait plaisir à Dieu ou on fait plaisir à Satan, on ne se pose pas la question, c'est la fête des bonbons. Combien d'autres fêtes éloignent l'homme de Dieu au lieu de le rapprocher? Êtes-vous prêt pour le retour du Seigneur? Amen. Êtes-vous prêt? Comme dans le temps de Noé, la connaissance et le plaisir. Est-ce qu'on s'en va, nous autres, dans notre vie chrétienne, puis qu'on pense juste à ça? Avoir du plaisir? On a juste une vie à vivre? Profitons-en! C'est le refrain qu'on entend tous les jours. Troisième point, l'augmentation de la violence. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute la chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'était-tu corrompu, ça? Oui. C'était pas chic, hein? Uniquement tourné vers le mal. Tous les jours, on entend parler de guerre, de meurtre, de viol, d'enlèvement, de règlement de compte. Les peintures et les émissions de TV, ça enseigne la violence, la sexualité débridée comme des animaux. Vous voyez ce qui s'est passé cette semaine, là? c'est juste une petite pointe, là. Tout ce qui est caché, on ne le voit pas. C'est toujours comme ça. Quand les chrétiens de nos jours écoutent régulièrement des films qui amènent vers cette tendance-là, Karen, H, explosif, la liste des armes saisies dans les écoles primaires et secondaires par la Sûreté du Québec. Après les couteaux, les pistolets à plomb, ce sont les carabines et les fusils qui ont été les armes les plus souvent saisies dans les établissements. La SQ s'inquiète. La SQ se fait avare de commentaires quant à l'origine de ces armes confisquées. D'où ça devient? Les autres le savent. Lance. Une jeune fille a raconté, une jeune fille de 16 ans. Elle a dit, j'ai frappé une policière. Je l'ai tirée à terre. Deux autres sont venus pour l'aider. Je les ai frappés moi aussi. Moi, elle a dit, quand on me frappe, je frappe aussi. Je me défends. C'est comme ça que j'ai été élevé. La violence. Aujourd'hui, la violence. Vous savez que, parvenu à l'âge de 5 ans, l'enfant a appris 75 % de tout ce qu'il avait à apprendre dans sa vie. Ce n'est pas pour rien qu'on a une société qui est violente. Ils apprennent la violence dès le début. Parvenu à 18 ans, son esprit est bien formé, comme dans un moule le restant de sa vie. Du temps de Noé, la méchanceté, la corruption et la violence ont amené le jugement de Dieu sur la terre, uniquement tourné vers le mal. Ça, c'est sans parler des prisonniers, la pègre, les voleurs à cravate, les violences. Ça finit plus, on pourrait parler de différentes choses. L'augmentation de la violence. Quatrième point, vivre pour manger et boire. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors moi, j'ai entendu, il n'y a pas trop longtemps, là, on s'en allait dans une rencontre de chrétiens. On a annoncé aux gars, prenez pas trop de boissons. Moi, ça me dépasse un peu, en tout cas. Moi, ça a jamais été mon problème, mais s'il faudrait que j'en ai eu ce problème-là en plus, il y aurait des problèmes-là. Mais c'est rendu qu'on a de la difficulté à trancher, à réaliser qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu en faisant des choses qui plaisent à Satan, des choses qui déplaisent à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le manger, le boire, la boisson, tout ça, c'est profitons-en, on a juste une vie à vivre. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Avez-vous ça? Vous regardez, moi, je ne suis pas un amateur de ça. Ça me tente, ces choses-là, mais à la TV, les recettes à Ricardo, qu'est-ce qu'on mange avec Danny, qu'est-ce qu'on... Il y en a. Changez de poste, puis il y en a toujours un. Boisson, plaisir, sexe, c'est aujourd'hui, ça. Les bars sont pleins. On mange, on boit, on veut fêter, on... Vivre pour manger et boire. Se marier, marier leurs enfants. Vous savez, le divorce, le mariage, c'est un fléau presque autant répandu chez les chrétiens que chez les non-croyants. C'est un signe que le jugement de Dieu approche. Selon les sondages, qui varient d'une province à l'autre, évidemment, c'est qu'on est près de 50 % des personnes qui se marient et des personnes qui vivent en union libre. On est presque à 50 %. Et le taux de divorce, ben lui, il dépasse 50 % des 50 % Les 50 % qui se marient, il y en a 25 % qui se divorcent. Il y en a 50 % qui se divorcent. Fait qu'il n'en reste pas beaucoup, ils restent ensemble. Choix, conséquence, caractère. Vous vous souvenez de ça? Bien, choix conséquent. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'ai rencontré un jeune homme, là, je ne suis pas certain du temps, peut-être 12 à 15 ans d'ici, là. Le jeune homme, 19 ans. Il venait juste d'accepter le Seigneur. Et il avait commencé à suivre des cours. On lui avait donné quelques cours. Puis Là, il avait commencé à suivre son cours pour se faire baptiser. À la deuxième rencontre, il dit, avant de continuer, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que là, j'ai rencontré mon ami, puis il dit, on va commencer à rester ensemble le mois prochain. Ah, OK. Il dit, est-ce que je dois continuer mon cours pareil? Bonne question. Très bonne question. Mais pourquoi tu fais ça? Puis là, on a posé des questions pour l'emmener à réaliser qu'il s'en allait sur une fausse route. Il dit, c'est ma décision. Ça, tu as raison. Tu as le choix, mais tu n'as pas le choix des conséquences. Tu vas avoir des conséquences. Et je les paierai. On n'a pas argumenté longtemps, on l'a laissé faire. Le temps a passé. Là, peut-être 2-3 ans, je ne me souviens pas, je retourne dans cette église-là pour prêcher. Et le jeune homme arrive. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Il s'en vient me voir, il me donne la main, il m'appelle par mon nom. Là, il me rappelle son nom. Oui, OK. Oui, c'est toi qui avais commencé à suivre le cours sur le baptême. Il me dit, ouais. Il dit, puis, ah, bien, ils ont, on est resté ensemble. Puis là, ils ont 2 enfants. OK? Puis, bien là, il dit, j'aimerais revenir au Seigneur. Est-ce qu'il faut que je la laisse? Il dit, je paye les conséquences. Il dit, j'ai fait un choix, puis là, je paye les conséquences. Est-ce que je dois la laisser? Bien non, là, j'ai plus le temps de la laisser, tu as des enfants. Comment les enfants vont comprendre ça? Alors, on a embarqué sur une discussion à ce niveau-là. Mais juste pour dire que ça fait 2-3 fois que je le revois, puis il revient là-dessus. Il dit, je les paye. Je le paye. Ben oui, il peut payer le restant de sa vie aussi. C'est un choix. Un choix que les gens font. Ils payent les conséquences. S'ils ne veulent pas payer les conséquences, ils font payer d'autres. D'habitude, c'est les enfants qui payent. Hein? Le cinquième point, c'est la moquerie de la vérité. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde, sur un monde impie. Impie, ça veut dire démuni de révérence envers Dieu. On se moquait de la vérité. Dieu a fermé la porte, ensuite le jugement est venu. Dieu va enlever les croyants, ensuite le jugement va venir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pas moi qui le dis. Méchanceté, violence, corruption. Vous savez que le monde du temps de Noé, c'est un monde impie, un monde moqueur, un monde incrédule, un monde indifférent. Trouvez-vous que ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui? Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Dans Luc 17, ce qui arrivait au temps de Noé arrivera de même le jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de soufre, de feu et de soufre tomba sur du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même lorsque le Seigneur va apparaître. Si on regarde ça, ça fait un nuage assez sombre. Hein? Le déluge s'en vient. Non, il n'y aura pas de déluge. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire 2 choses. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Un homme de Dieu fuit des choses puis recherche autre chose. Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous êtes supposé de laisser tomber les choses qui n'appartiennent pas à Dieu et rechercher les choses qui viennent de Dieu, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Comment mettre en pratique ce message? Mais éloignez-vous des activités mondaines et c'est ainsi que vous allez plaire à Dieu. Faites le contraire de ce que le monde fait, puis vous allez plaire à Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Mais dans mon temps, c'est moi qui dois être juste et intègre. Et je peux vous dire que j'ai de la misère. Pas comment ça va pour vous autres? Et c'est pas simple aujourd'hui. C'est pas simple. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Benjamin Graham, un conférencier du Nouvel Âge, a dit « Nous sommes tout près d'une nouvelle ère où toutes les religions ne feront qu'un, nous n'aurons qu'un leader, et ce sera la paix sur la terre. » Bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont prêts pour le retour du Seigneur. Pourquoi viendra-t-il nous chercher? Êtes-vous prêts? Pourquoi il va venir nous chercher? Parce qu'il nous l'a promis, pour nous délivrer de la colère à venir et pour nous donner des corps glorifiés. On revient avec une carte similaire à celle de tantôt. Le Seigneur vient pour chercher les saints. Tantôt, il va revenir ici pour le jugement final. Romains 5,9 nous dit « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Car on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On peut remercier le Seigneur que nous serons épargnés de la colère à venir. Peut-être qu'on va goûter un petit peu ou subir un peu la colère des hommes. Certaines persécutions, c'est possible, mais pas celle de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a subi la colère à ta place. Il a payé la dette. On n'a pas à la repayer. Il a payé à ma place, il a payé à votre place, et on peut le remercier ensemble pour cette grâce. Prions. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, que ta parole, tu nous dis que tes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre vont passer, mais tes paroles ne passeront point. Qui est arrivé dans le temps de Noé, on est en train de le revivre aujourd'hui, ce qui nous démontre que bientôt, il y a un jugement qui s'en vient sur la terre. Et merci, Seigneur, qu'on va être épargné de ce jugement-là, parce que toi, tu as été jugé à notre place. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens vivants, des chrétiens qui te suivent, qui sont des modèles intègres, comme Noé a été dans son temps. On implore ta grâce, Seigneur, sur chacun de nous, et c'est une grâce abondante qu'on te demande, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.